Sons d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour et bienvenue dans Accent. Et d'abord, la mobilisation contre le virus Ebola en Europe. Alors que l'Organisation mondiale de la santé publie sa liste de bonnes pratiques pour lutter contre l'épidémie qui a fait près de 4500 morts, les pays occidentaux, eux, renforcent les contrôles, notamment dans les aéroports. En France, les contrôles de passagers en provenance de Guinée débutent ce week-end à Roissy. Et puis, il y a cette réunion des ministres européens de la santé à Bruxelles pour discuter encore une fois de contrôles renforcés de voyageurs. À l'initiative, l'Italie, pas encore touchée par le virus, mais une task force interministérielle a été déployée hier soir après la vidéoconférence organisée entre les leaders européens et Barack Obama. Les ONG, elles, appellent à la mobilisation des forces sur le terrain. Alors, quelles sont leurs priorités? Mathilde Villain parle avec Loris De Filippi, président de Médecins Sans Frontières Italie.
Il faut se concentrer encore plus aujourd'hui sur la limiter les réservoirs. Les réservoirs, c'est la base. Pas ici. Malgré la possibilité qu'il y a des infections en Espagne tout récemment, on devrait être capable en Europe de contenir les problèmes. S'ils ont réussi en Nigeria à gérer la situation, on attend tous les 20 octobre pour décréter l'OMS la fin de l'épidémie en Nigeria. Je pense qu'on devrait être capable de faire la même chose.
Alors, quelle est la responsabilité de l'Europe dans la gestion de cette crise ?
Pour moi, doit mettre comme point premier, pas la sécurité interne, mais absolument l'activité sous les réservoirs. Pas seulement les ONG, mais aussi toutes les formes de protection civile, ou même les militaires qui ont la capacité de réagir à des attaques biologiques, à mettre en place des centres comme nous on a fait. On a 6 en Afrique, il faudrait les multiplier en absolu. Et certainement faire des activités pour réduire systématiquement la transmission du virus. Et donc être sur le terrain, avoir des ressources humaines sur le terrain pour mener des activités qui puissent élargir ce qu'on a fait jusqu'à présent.
Est-ce que selon vous, il faudrait faire pression aussi sur les industries pharmaceutiques ?
Sans doute, les pressions maintenant sont là. Je pense l'effet que les Européens et les Américains ont été touchés pousse l'industrie pharmaceutique à bouger. Mais il y a aussi des protocoles à respecter. Il y a un minimum d'éthique médicale qui doit être respectée aussi. Donc, effectivement, je pense que ça, tous ces mouvements-là, va stimuler sans doute les industries pharmaceutiques, soit pour les médicaments et surtout pour les vaccins.
Alors en Italie, il y a une préoccupation naissante parce que des milliers de migrants arrivent chaque semaine en Sicile. Est-ce qu'il y a un risque que l'épidémie arrive en Europe par ce biais-là ?
Je pense que cet argument est absolument utilisé, récupéré politiquement par une partie politique très claire qui a vu, surtout cette année, une arrivée massivement dans les côtes italiennes, surtout les Syriens et des gens qui échappent la guerre, mais aussi des Érythréens et des autres personnes dans des situations précaires et difficiles. Donc c'est très facile faire monter la peur. En réalité, on a vu jusqu'à présent, les gens qui ont amené en Europe la pathologie ne sont pas nécessairement des immigrés qui échappent à une guerre. Donc en plus, en considérant les périodes d'incubation et tout le reste, c'est vraiment difficile d'imaginer que un Guinéen, un Sierra Leone, un Libérien arrive sur les côtes de la Libye en vitesse, en traversant le désert, avec déjà la pathologie.
Loris De Filippi, président de MSF Italie. Trois mois après le crash du Boeing de la Malaysia Airlines dans l'est de l'Ukraine, des officiels néerlandais ont pu revenir sur place cette semaine pour tenter de récupérer les effets personnels des victimes. Ils ont pu constater que rien n'avait été fait depuis pour nettoyer la zone. au grand dam des habitants déjà confrontés au combat entre les forces rebelles et l'armée ukrainienne. Des habitants qui se sentent totalement abandonnés dans l'indifférence générale, avec ces débris à perte de vue. Et ils l'ont dit au micro de notre correspondant Sébastien Gobert.
À la sortie du petit village de Grabové, le paysage est toujours aussi apocalyptique. Éparpillés sur un champ entièrement calciné, des débris de machinerie, des morceaux de carlingue ou encore des roues indiquent encore précisément où se sont écrasés les réacteurs du Boeing MH17 ce 17 juillet en fin d'après-midi. Ce jour-là, Alexei Mortonsov et sa femme étaient dans le jardin de leur maison, à peine à une centaine de mètres de là.
On a d'abord entendu deux explosions, suivies d'un sifflement sourd. Nous avons levé la tête et l'avion entier nous est tombé dessus. Boum ! À quelques dizaines de mètres, là-bas, ça a été un déluge de feu. Les arbres en flammes, tout. Très vite, les pompiers sont arrivés et ils nous ont dit que c'était un appareil de la Malaysia Airlines.
Après le balai incessant de secouristes, de missions internationales et de journalistes, Alexei n'a plus vu personne. La récente mission hollandaise, sur place, s'est concentrée sur la récupération des effets personnels des passagers. Les brosses à dents, les peluches, les livres ou encore les valises qui étaient restées à même le sol, livrées aux intempéries pendant près de 3 mois. Mais pour ce qui est d'un nettoyage complet de la zone, il faudra attendre longtemps, comme le craint Alexei Mortonsov.
On nous a fait beaucoup de promesses, mais personne ne veut de cet avion. Les débris vont donc rester ici pendant longtemps. Ils sont éparpillés partout, sur un territoire très grand. Il est donc très difficile de tout nettoyer, et rien n'a été collecté pendant des jours. L'odeur était insoutenable et persistante.
Passé la foule des journalistes, observateurs internationaux et équipes de secours, les habitants se sont retrouvés tout seuls à vivre en face des restes macabres de la tragédie. Dans le village voisin de Rossipné, Nikolai Kovani rentre chez lui à vélo, en passant machinalement devant le champ de tournesol où s'est écrasé le cockpit du Boeing.
Évidemment qu'on est en état de choc. On a l'impression que tout le monde nous a oubliés. Au début, cet accident a fait tout un foin. Tout le monde a débarqué ici, des dizaines de journalistes. Les gens de l'OSCE, ils sont arrivés plus tard, mais ils sont venus souvent. Maintenant, c'est fini, on le sait, tous les passagers sont morts, il ne se passe plus rien.
Et pourtant, tous les corps des victimes n'ont pas été retrouvés. Au 15 octobre, 272 des 298 passagers du Boeing ont été récupérés et identifiés. Dans de nombreux cas, les experts n'ont pu retrouver que des membres, bras ou jambes, mais pas tout le corps. Fin juillet, ce sont les forces rebelles qui ont été vivement critiquées pour avoir laissé en état la zone du crash, un traitement indigne. Mais dans la ville de Torez, un commandant militaire séparatiste en charge de la zone, qui préfère conserver l'anonymat, se défend en expliquant qu'il a été impossible d'organiser une opération de grande ampleur.
Cela n'aurait aucun sens de mener de nouvelles recherches. Les chiens sauvages ont déjà tout dévoré. Et puis, il y a des combats sur la zone. Si les Ukrainiens arrêtaient enfin de nous attaquer, ce serait possible d'enlever tous les débris. Mais pour l'instant, c'est trop dangereux. En plus, la zone du crash est très étendue. On n'a pas pu tout récupérer en une fois. Comment pouvons-nous être sûrs que quelqu'un n'a pas volé quelque chose ? Nous avions arrêté un voleur, il avait pris des téléphones, des cartes SIM, de l'argent. Nous l'avons transféré au centre de commandement.
De nombreuses familles de victimes dénoncent plus d'un cas de pillage et de piratage de cartes de crédit, de téléphones et autres. De nombreux effets personnels manquent encore à l'appel, comme le démontrent des avis de recherche placardés ici et là, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. Très probablement, un certain nombre d'objets ne sera jamais retrouvé. Dans ces conditions, toute perspective d'une enquête internationale sur les causes du drame est inimaginable. Restent donc les habitants, sans aucun soutien, ni psychologique ni économique. Dans le village de Rossipné, Marina Bourkala est une de ces victimes oubliées.
Chez nous, un corps nous est tombé dessus. Il a traversé la fenêtre. Beaucoup de monde est venu, des membres de toutes sortes de commissions. Nous avons dû effectuer nous-mêmes les réparations sur les fenêtres. Et puis avec la guerre, on survit un jour, une heure, on ne sait juste pas ce qui va se passer la minute d'après.
À quelques kilomètres à peine, on peut apercevoir les colonnes de fumée qui montent vers le ciel. Si les combats s'approchaient de la ville de Rossipné, toute perspective d'un nettoyage complet et digne de la zone serait anéantie. Et si ce n'est pas la guerre, ce sera l'hiver qui se chargera bientôt de faire disparaître les preuves de la tragédie pour toujours.
Depuis la catastrophe, ukrainiens et occidentaux accusent les séparatistes pro-russes d'avoir abattu l'avion de ligne. Vladimir Poutine renvoie la balle, lui, aux autorités ukrainiennes, jugées responsables, selon lui, d'avoir créé un climat de guerre propice à ce genre de tragédie. Il n'empêche que les occidentaux ont décidé d'un certain nombre de sanctions contre la Russie. Au début du mois d'août, les Russes ripostaient en décrétant à leur tour l'interdiction totale pendant un an des produits agroalimentaires en provenance de l'Europe, des États-Unis et de l'Australie. Pour compenser, le Kremlin s'est rapproché de nouveaux fournisseurs, notamment sud-américains. Les grands médias ont présenté la mesure comme une aubaine pour la production nationale. La réalité semble toutefois plus nuancée. Reportage dans l'oblast de Tver, à 250 km de Moscou, Étienne Bouche.
La matinée a beau être fraîche et brumeuse ce dimanche, les exposants sont nombreux à avoir fait le déplacement à la foire annuelle de Tarjok. Alexandre a enfilé un gros manteau. Nadiejda, elle, s'est réfugiée dans la voiture. Ils habitent la région et sont venus vendre leurs bouteilles de lait de chèvre. Du lait frais et sans conservateur, répète Alexandre, et l'argument rencontre un certain succès. Au moment de remballer, le fermier est tout sourire.
Tout s'est bien passé, on a vendu tout ce qu'on avait apporté.
Cela fait presque 15 ans que le couple s'est lancé dans l'élevage de chèvres. Nous voici à la ferme des Bodrov, dans un hameau où les habitants se comptent sur les doigts d'une seule main. Avec l'aide d'Andrei, leur fils, ils veillent sur un cheptel de 110 bêtes. Ils vendent essentiellement du lait, car la production de fromage ne leur permet pas de dégager de gros profits. En Russie, le décret de Vladimir Poutine interdisant pour un an les produits agroalimentaires occidentaux sur le marché intérieur a fait grand bruit. Les médias se sont aussitôt emballés.
Une heure plus tard, on reçoit un appel, une équipe de télévision. On aimerait venir à la ferme pour faire un reportage sur les effets des sanctions. Nous savons que vous faites des fromages et que vous allez forcément augmenter votre volume de production, vendre davantage, élargir votre offre. Je leur ai répondu, vous savez, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Je ne me réjouis pas du tout de ces sanctions.
Dans ce contexte de forte turbulence diplomatique, Moscou a en effet adapté son discours. Officiellement, les sanctions devraient permettre de développer la production nationale et d'engager la fameuse diversification de l'économie russe. Mais Alexandre se montre plus circonspect.
Premièrement, on a perdu de l'argent avec les centres commerciaux qui ont fait faillite à cause des sanctions. Deuxièmement, pour augmenter la production et les ventes, il faut bien que les bêtes se reproduisent. Alors, ça ne se fait pas en un an. Les choses ne vont pas si vite. 9 femmes ne peuvent pas donner naissance à un enfant en un mois.
Assis devant la table de la cuisine, Andrei se montre plus enthousiaste.
Si on se base sur des choses concrètes, sur notre situation, c'est un plus. Nous resterons l'un des principaux fournisseurs de lait de chèvre et j'imagine que sur le marché national, ça va profiter aux producteurs russes d'une manière générale.
Les Bodrov vendent leurs produits à des distributeurs régionaux, mais aussi et surtout à Moscou. Ils fournissent notamment une ancienne française bien implantée en Russie. Depuis l'adoption de l'embargo alimentaire, ils ont reçu plusieurs appels de nouveaux clients potentiels. Seulement, Nadiejda et Alexandre ne sont pas en mesure de produire davantage pour le moment. De plus, ils peinent à trouver un renfort de main-d'œuvre dans la région et le contexte économique incertain n'encourage pas tellement à investir.
Les 15 années qui ont précédé la crise de 2008 ont été bonnes. Le prix du pétrole était élevé, il était possible d'investir dans l'agriculture. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Et nous avons pu constater que ces dernières années, les produits importés n'ont cessé de croître sur le marché. Et maintenant, en l'absence de crédit, de politique cohérente, je ne suis pas sûr que les producteurs prendront le risque de développer leur activité pour un ou deux ans.
Directeur du Centre de développement durable des zones rurales de l'Université Timiryazieff de Moscou, Alexandre Merzlov se dit plutôt confiant. Il souligne néanmoins les conséquences immédiates de l'embargo pour le consommateur.
Aujourd'hui, on observe une augmentation importante des prix dans les magasins. Les stocks de marchandises achetés à l'avance sont quasiment épuisés. Les nouveaux fournisseurs sont actuellement en train de négocier. Certains ont à peine commencé. Faire affaire avec les pays d'Amérique du Sud ne va pas se faire du jour au lendemain. Et dans l'immédiat, il est impossible de tout remplacer par des produits russes.
Si le pouvoir russe resserre en effet ses liens économiques extra-européens, notamment avec le Brésil, il cherche également à limiter sa dépendance vis-à-vis de l'étranger. La Russie entend par exemple diviser par 3 ses importations de viande d'ici à 2020.
En Finlande, la guerre des sexes semble remisée au placard avec tout de même des résultats étonnants. Une étude récente démontre que de plus en plus d'hommes travaillent dans des secteurs considérés jusque-là comme féminins. La crise économique en serait la cause. Pauline Curtet.
Infirmiers, puériculteurs, secrétaires ou agents d'accueil, les hommes vont bientôt être aussi nombreux que les femmes dans ces secteurs d'activité jusqu'alors très féminins. Une perspective à peine imaginable en Finlande voilà 10 ans, mais que les nombreux licenciements dans le secteur industriel ont précipité. Les ouvriers, pour la plupart des hommes, ont dû se reconvertir dans les domaines qui embauchent. Hanna Soutela, chercheuse à l'origine de l'étude, remarque aussi que les migrants et les jeunes sont les plus enclins à briser la barrière des genres. Pour autant, le quotidien Helsingin Sanomat, qui a publié ces statistiques, remarque qu'elles ne constituent pas une bonne nouvelle. Car dans l'autre sens, la tendance n'est pas la même. Les Finlandaises ont encore bien du mal à s'installer dans les secteurs réservés aux hommes, avec des différences qui se sont même accrues ces dernières années. Ainsi, le nombre de femmes travaillant dans l'informatique et le développement de nouvelles technologies est en fort recul depuis 10 ans. Pour le journal, c'est une véritable honte pour la Finlande. Le pays nordique n'est-il pas régulièrement en tête des pays les plus agréables au monde pour les femmes ? Oui, répond un journaliste, mais ce confort semble bien s'arrêter à la porte de l'entreprise. Résultat, des féministes finlandaises s'interrogent. Faut-il instaurer des quotas de femmes dans certains secteurs, non seulement dans les postes de dirigeants, mais aussi pour des métiers moins qualifiés ? Du côté du ministère de l'Emploi finlandais, on assure qu'une telle mesure serait en pratique très difficile à appliquer. Bref, la tendance n'est pas prête de s'inverser.
C'est la nouvelle top model star de Prada. Elle a défilé sur les podiums de Milan cet automne, sauf que Rose Abel, c'est son nom, est une jeune collégienne de 14 ans seulement et la presse anglo-saxonne se déchaîne. Sabine Sessou.
Rose Abels, 1m75, vient de la petite ville de Purmerend, au nord d'Amsterdam. Sa beauté blonde a été admirée par certains blogs consacrés à la mode. Ils voient en elle la nouvelle muse de Prada. Mais sa présence sur les podiums relève du travail d'enfant, estime pour sa part The Daily Mail. Elle devrait être à l'école, titre ainsi le quotidien britannique. Ce n'est pas la première fois que Prada a recours à de très jeunes mannequins, ce qui va à l'encontre des efforts faits par l'industrie de la mode pour protéger les mineurs. En 2011, le Conseil des créateurs de mode américain a interdit tout mannequin de moins de 16 ans dans les défilés, un mouvement suivi en Grande-Bretagne par l'Association des agents de mannequins. La créatrice Diane von Furstenberg avait écrit une lettre ouverte en 2011. Elle dénonçait l'embauche d'adolescentes prépubères pour porter des vêtements d'adultes. Les hanches, les seins et les courbes féminines restent absents de ces corps adolescents, dit-elle, ce qui crée une norme de beauté irréaliste. Rose Abels, de son côté, reste très discrète, elle ne s'exprime pas. L'agence italienne Brave Models, qui a signé un contrat avec elle, répond donc en son nom. Elle dit que le défilé n'a duré que 15 minutes et la coiffure et le maquillage 1h30. Pas de quoi donc mettre en danger sa scolarité. Aux Pays-Bas, un principe de liberté individuelle prévaut. Les jeunes sont encouragés à travailler dès l'âge de 15 ans avec un SMIC jeune spécialement conçu pour eux. À Amsterdam, la polémique ne prend pas et l'on s'étonne presque qu'elle ait lieu en Grande-Bretagne. Quant à la marque Prada, elle fait le buzz. Rose Abels s'avère être un excellent retour sur investissement en termes de retombées dans la presse internationale.
Accent, c'est fini. Jusqu'à demain, la réalisation Françoise Grelot. Ne zappez pas. Dans un instant, les infos sur RFI.